des choses que Denis m'a mis avec plus de circonspection, on va dire. Donc Mireille, par contre, ça l'intéresse. Mais ce sont des histoires que je trouve en moi et qui vont trouver une sortie chez quelqu'un chez qui elles éveillent un écho. Alors finalement, ça se distribue comme ça, de jeunesse en adulte, mais elles naissent comme ça sans... Sans choix délibéré, je le pense pas avant. Je vais dire une chose, rajouter quelque chose à ce que disait Fabrice. Soon, qui était plutôt essentiellement orientée science-fiction et science-fiction pure, est en train de s'ouvrir légèrement vers un genre plus, on va dire, qui va accueillir un éventail plus large avec le dernier roman de Samantha Bailly. Clairement, d'après ce que j'en ai feuilleté et lu le quatrième de cours.
Avec Souvenirs perdus.
Voilà, ouais. C'est ça. On est plus dans l'onirisme, le fantastique. Il y a sûrement une base science-fictionnelle, mais là, on est dans autre chose que la science-fiction pure telle que Denis la défend d'habitude.
D'accord.
Donc, c'est pas une collection fermée. En fait.
Mais pour vous, en tant qu'auteur, quel rapport vous faites entre... votre joueur de jeux vidéo Valentin dans l'envol du dragon, chez Syros, entre Raphaël, l'espion de métaphysique du vampire, et entre le Lancelot de l'anthologie ActuSF, comment est-ce qu'on passe de cette invention ou de cette réinvention pour Lancelot, par exemple, à la création de personnages très très différents?
Je vais te la faire à la Flaubert. Ils sont tous moi. Mais surtout quand même Navarre. Navarre, c'est mon double diabolique.
D'accord.
C'est ce que je ferais si je pouvais tout me permettre. Je serais odieuse comme ça. Donc,
et vous seriez vampire.
Et je serais vampire, voilà. Mais bon, Valentin, tout le monde qu'il a autour, en fait, il ressemble terriblement... Je la reprends à l'inverse. Tout à l'heure, tu disais, pourquoi est-ce qu'on écrit plutôt dans les genres de l'imaginaire? Et là, récemment, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant pour des raisons personnelles. J'ai écrit deux textes autobiographiques, strictement autobiographiques, qui racontent mon vécu de mère avec un enfant autiste. Et c'est accessible vu qu'une partie d'entre elles est parue dans Rue 89. Je l'ai fait pour des raisons totalement dégueulasses, c'est-à-dire que j'avais l'intention d'avoir un article afin de secouer l'Académie de l'éducation nationale du Gers, qui m'a viré mon fils du jour au lendemain de l'école où il était. Et donc, je voulais leur rentrer dans l'art et leur apprendre ce que c'était de s'attaquer aux parents, aux enfants, sans précaution, avec un manque d'humanité aussi flagrant. Et donc, j'ai utilisé, c'est vrai, les armes que j'avais, à savoir la plume. Et donc, j'ai raconté la vraie vie dans les plis d'une mère d'autiste avec un enfant autiste, ce que c'était, comment on était accueilli, comment on était... Et c'était très dur. C'est un article que j'ai écrit en pleurant, que ça me revient là. Voilà pourquoi j'écris l'imaginaire, parce que si j'écrivais le vrai, je souffrirais trop. L'écran de l'imaginaire me permet de vous dire la vraie vie, de raconter Valentin qui au fond est mon fils et son père, mais avec un écran suffisamment épais pour que je puisse le faire sans souffrir, et tout en me libérant aussi. L'écriture, c'est pas seulement... Pour moi, raconter des histoires, c'est raconter aussi un peu la mienne. Voilà.
Alors justement, Charlotte, est-ce que vous qui êtes dans l'imaginaire presque tout le temps?
Ah bon?
Dans vos romans. Est-ce que vous vous considérez comme un témoin du quotidien? Est-ce que c'est une façon de témoigner de ce qui vous entoure en leur roman?
En fait, c'est aussi un moyen. Alors là, je vais parler d'un livre que je n'ai pas encore écrit.
C'est pas grave, tout ça, tout le monde aura envie de l'acheter dès qu'il sortira.
Moi, c'est plutôt des thématiques qui me parlent, qui me passionnent, qui parfois me choquent. En fait, j'ai envie d'écrire quelque chose sur ce moment, sur la problématique du voile et des jeunes filles qui sont complètement embrigadées par des imams tout de droit venus là du Qatar et autres. Et qui se deviennent complètement décérébrés, et de ces femmes à qui finalement on explique qu'elles sont des inférieures, à qui c'est normal, oui, c'est tout à fait normal, bien sûr, d'être frappée par son mari, et Et je me suis dit, honnêtement, je ne me sentais pas, mais c'est comme toi, mais pas parce que ça me fait pleurer, juste parce que ça me fout dans un état des nerfs, mais déjà rien d'en parler comme ça. Je me suis dit, j'ai envie d'en parler, j'ai envie que peut-être éventuellement de les toucher ou de toucher des gens qui. Et donc là, mon idée, c'est d'écrire une dystopie dans un monde où, où ce serait comme ça, une société, mais finalement qu'on trouve dans la réalité aussi, mais voilà.
Voilà, tu vas écrire de la blanche, en fait.
De la, exactement, la blanche, mais en fait, je fais croire qu'il y a du shit dessus. Voilà. Mais en fait, après, j'ai. Voilà, moi, le truc, c'est que je suis un petit peu. J'ai envie de revenir à l'imaginaire en ce moment, mais j'ai tendance un petit peu à faire du n'importe quoi, du tout, de la BD, comme vous le savez, de la littérature générale.
Voilà, alors la blanche, pour ceux qui ne le sauraient pas, oui, voilà, ils ne se mettent pas tous à dîner, ils écrivent de la littérature générale.
Voilà.
qui est vendue avec un peu moins d'opprobre ou un peu moins de regard
méprisant. Mais en même temps, je trouve que c'est vrai que les frontières sont quand même vachement en train de bouger parce qu'on regarde de plus en plus. Quoi. Par exemple, j'ai contacté il y a pas longtemps par le Rouerd, qui est plus connu. Enfin, donc, c'est un éditeur jeunesse et adulte qui fait plus quand même justement de la littérature blanche. Qui cherchent à faire de la fantaisie, on a de plus en plus, je trouve, des frontières très très poreuses.
Est-ce que le succès de la dystopie, par exemple, pour young adultes et pour jeunes au cinéma, est-ce que ça vous permet d'être directement en prise avec quelque chose qui va marcher auprès d'un public jeune, ou encore une fois, quand on invente une histoire, c'est pas le souci qu'on c'est pas le premier souci auquel on pense.
Je dirais qu'il y a un souci qui est le partage. Après, il y a un souci qui est purement mercantile et financier, c'est qu'il vaut mieux que ça marche quand même. Quand même. Mais après, je trouve. En fait, la dystopie, c'est un genre qui est génial, qui n'est pas nouveau. Mais voilà, ça marche en young adulte, c'est super. Il y a des très bons bouquins qui sont sortis. Après, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire exploser les frontières et puis de la dystopie blanche. De la blanche dystopie, enfin, je sais pas, des trucs voilà, qui permettent vraiment de rendre tout complètement fermé.
Pour ceux qui ont envie de lire des choses un peu.
À ce moment-là. Pour
ceux qui ont envie de lire des choses publiées il y a un peu plus longtemps, avant le terme dystopie, vous pouvez aller chercher les livres qui s'appellent les livres d'anticipation. C'est bien aussi, quoi. Ça parle déjà voilà. Bien souvent d'un futur proche ou potentiel. Est-ce que du coup, on a vu que vous pouviez être des observateurs engagés, mais est-ce que vous pouvez aussi, à travers l'imaginaire, être un espèce de Sherlock Holmes qui nous considère tous comme des Watson en nous disant, ben, enfin voyons, il n'y a qu'à regarder, c'est évident. Est-ce que vous nous aidez à voir plus clair dans des choses du quotidien? Est-ce que vous êtes là pour pointer du doigt des choses?
Mais attends, je te laisse pas. Perso, moi je me sens investie d'aucune mission de dénonciation ou de leçons, etc. Des leçons, je j'en donne en classe si tu veux. J'ai un programme pour ça et il a été décidé pour moi. Voilà. Moi, mon truc, c'est je fais partager aux gens les questions que je me pose. Ça serait plutôt comme ça que je le vois. Quand Charlotte parle des femmes, elle pose aussi des questions, elle ne donne pas les réponses, mais bon, elles sont assez claires pour un genre normal, mais c'est quand même que des questions, on n'est pas des gourous.
Enfin, non, je dirais qu'on est des poseurs de questions, voilà, actuellement. Même pour autant que des raconteurs d'histoire, on est des poseurs de questions.
Et des emmerdeurs, parce qu'il faut poser des questions, c'est toujours emmerdant. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis ça.
En fait, on a dit qu'on te faisait parler parce que c'est sa première table ronde.
Oui, voilà.
Alors, parle. Alors,
en plein
est-ce
air.
Que est-ce que c'est bien?
Non, je dirais la même chose. On n'est pas des gourous, on est juste des poseurs de questions. Et personnellement, je n'ai pas envie non plus de soulever des questions qui peuvent sembler évidentes, quoique pas toujours quand on voit l'actualité récente. Ce qui m'intéresse plus, c'est de pouvoir d'abord narrer une bonne histoire, celle que j'ai envie d'écrire, celle que j'ai envie de partager avec les gens. Et en même temps, s'il y a des thèmes qui peuvent résonner dans les mentalités, c'est un bonus qui est tout à fait profitable.
J'ai cherché à vous connaître un petit peu mieux, Sylvie, et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait bien sûr les autres passeurs qu'on a montrés tout à l'heure, mais il y a aussi... une nouvelle où vos personnages sont au service des insectes.
Oui, tout à fait.
Et puis une autre où la religion tourne autour du zodiaque.
Oui.
Donc entre histoire revisitée, entomologie, astrologie, vous avez décidé de tout explorer.
Oui, absolument. C'est l'imaginaire que j'ai envie d'explorer, c'est-à-dire pas se poser de limites, enfin poser de limites dans, je dirais, selon les connaissances dont je dispose, qui ne sont pas toujours faciles à acquérir. C'est pour ça qu'on a souvent un côté chercheur, rechercheur, aller chercher dans des archives. Souvent on débarque avec 10 fois plus de documentation qu'il est nécessaire pour construire le roman.
Justement, alors, parlons-en de cette... puisqu'on parle de la passion d'inventer, on est bien d'accord que vous l'avez tous, cette passion d'inventer, mais comment est-ce qu'elle émerge? Comment est-ce que surgit l'histoire? Comment est-ce qu'elle se construit?
Pourquoi tu me regardes?
Mais pourquoi pas? Parce qu'il y a longtemps que tu n'as pas parlé.
Comment surgit une histoire? Oui, c'est mon tour. deux choses, une, effectivement. Alors, soit on est vraiment dans l'imaginaire, enfin, je parle... pur, c'est-à-dire ce que j'appelle un monde secondaire, c'est-à-dire un autre monde, le Seigneur des Anneaux. Bon, il y a toujours un substrat, la réalité, on est plongé dedans, hein, on n'est pas directement propulsé ailleurs, mais je dirais que le degré d'invention pure et joyeuse est plus ou moins important selon qu'on va créer un monde, par exemple, un système, ou selon qu'on va s'appuyer sur ce qu'on a un petit peu sous les yeux. Il m'arrive assez souvent, moi, de alors surtout pour adultes, hein, je dirais, mais de puiser l'inspiration dans le quotidien, dans quelque chose qui s'est passé. Alors ça peut être un fait de société, on parlait de femmes voilées, ça peut être... Moi, ça a plus être du domaine de l'anecdote. Là, j'ai terminé d'écrire un roman sur un épisode de la vie de Kafka, voilà, mais un truc qui n'est pas du tout connu. J'ai découvert ça dans une biographie, je me suis dit, tiens, je vais développer ça. Il y a toujours des zones d'ombre en plus dans l'histoire, ou des trous, ou des choses, voilà, qui demandent qu'à être comblées ou réinterprétées. On peut aussi, de toute façon, distordre complètement l'histoire et décider qu'en fait c'est pas ça, c'est autre chose. Voilà. Donc le quotidien. Alors j'ai vu Charlotte qui rigolait tout à l'heure. C'est vrai qu'on se retrouve avec parfois des 6 ou 7 bouquins, ou 10 ou 15, dont on va en fait utiliser 3% à peu près.
Deux lignes, page 22.
Peut-être. Voilà, c'est ça.
Le bouquin, la date.
La couleur de la porte, voilà, c'est important. Et puis, et ça, c'est quand le bouquin sort, déjà, c'est bien. On peut se dire que, bon...
Mais les libraires sont super contents.
De quoi?
Les libraires,
oui. Ouais.
Vous êtes bon client de libraire, c'est ça?
Tu passes des commandes de trucs universitaires, ça fait bien cher et tout ça.
Ça fait partie aussi de l'aspect totalement du boulot, parce qu'on se retrouve à tomber dans des histoires qu'on n'aurait jamais imaginées, à apprendre des trucs qui nous font dresser les cheveux sur la tête ou exploser de rire. Là, pour Lancelot, je me suis plongée dans l'ésotérisme nazi d'avant-guerre, c'est à se taper le cul par terre, tellement c'est ridicule. Mais quand on met ça en parallèle avec ce qui va se passer après, ça prend des dimensions qui sont totalement tragiques. Alors, ce qui ne m'a pas empêché de faire une connerie, d'ailleurs, dans le Lancelot, que le très célèbre érudit Joseph Alterac n'a pas montré. Pointé, c'est que tellement j'étais focalisée sur les dingueries des nazis, tout ce qu'ils ont pu inventer de rigolo juste avant de déclarer la guerre à tout le monde, que du coup je me suis gourée de 3 ans sur l'invention de la 25SS. Je me suis fait éclater la gueule. Mais il avait raison, j'aurais mieux fait d'acheter le bouquin où il y avait la date.
Alors quand on vous entend, on se dit, mais finalement, est-ce que vous n'êtes pas des grands collégiens qui tous avaient décidé de faire de votre vie un éternel préparation d'exposé?
Allez, on prend de la doc, on prépare un exposé et on le rend à l'autre.
Il est certain qu'on apprend des... Enfin, moi, j'ai appris des trucs en histoire que j'étais censé connaître déjà, normalement, si j'avais vraiment suivi le programme de A à Z, ce qui arrive, en gros, à pas grand monde. Mais, ouais, alors moi, je suis... Là, il y a cette jubilation qu'on évoque d'apprendre des trucs et de se dire c'est pour mon boulot, ouais, c'est super, il n'y a pas mieux, quoi.
Je suis en train de dire des trucs sur la guerre de 14 avec notamment un type, donc les journaux complètement trafiqués, puisque voilà, propagande, censure, et des faux soldats, et un type qui dit non mais moi, les Allemands ils sont affamés, d'ailleurs c'est simple, maintenant je vais plus, j'ai plus mon fusil, une tartine de confiture pour les faire des prisonniers. Voilà, donc ça c'est juste avant le moment de Verdun, non quoi.
C'est pas très crédible.
Voilà, et on apprend des trucs, c'est vrai que c'est super drôle quoi, c'est horrible et c'est super drôle.
Et est-ce que c'est plus intéressant de travailler dans cette recherche-là en se basant sur des choses déjà connues ou existantes, ou est-ce que vraiment vous considérez ça comme très différent de, du créateur complet d'univers à la Tolkien, pour citer, pour n'en citer qu'un? Est-ce que vous vous sentez de cette création? Oui, Jeanne.
Point d'ordre. Tolkien, il n'a pas tout sorti tout nu de sa
son chapeau. Non, on est d'accord.
Et donc, il a
il avait un chapeau d'ailleurs.
Il avait un très gros chapeau. Et une très grosse tête. Mais il a fait un énorme boulot de recherche, de création, c'est vrai, mais surtout de recherche. Il n'est pas. Le Seigneur des Anneaux, il n'est pas de l'air. Il naît d'une très longue tradition anglaise sur laquelle Tolkien s'appuie à fond les gamelles, pas seulement anglaise, nordique. Et aucun univers que j'ai vu jusqu'à présent créé par quiconque ne s'appuie sur rien.
Ça serait complètement déstabilisant, voire impossible à appréhender.
C'est ce que dit Lionel.
J'ai découvert en faisant les recherches pour mon propre bouquin, celui que ça fait 2 ans que je prenais un rêve, que un de mes bouquins préférés de Caroline Sherry, qui s'appelle pas Caroline Sherry, c'est un auteur américain absolument génial. Ça s'appelle Fading Sun, c'est une trilogie qui raconte l'histoire d'un peuple de mercenaires extraterrestres. Et j'avais adoré cette trilogie et je viens de découvrir qu'en fait c'est les Touaregs. Parce que tout ce qu'elle décrivait dans cette trilogie, c'est ce que je suis en train de découvrir des usages des Touaregs. Et le monde qu'elle décrit est totalement fascinant. Après, c'est de la science-fiction, mais c'est quasiment de la fantasy. En fait, il y a des grandes épées, des combats où on fait sauter des têtes. Enfin, c'est chouette.
Le degré d'imaginaire, c'est un peu comme l'alcool. C'est-à-dire, si t'en as pas du tout, c'est chiant. Mais un truc à 100% d'alcool, c'est imbuvable. Tu ne sentirais plus rien. Personne ne boit ça. Donc il y a des degrés, je pense.
Oui, personne ne boit d'alcool à
80.
Mais bon.
Donc, et vous vous considérez tous les quatre comme très alcoolisés ou plus?
Moi, je vais prendre un moment pour les alcooliques anonymes, hein, je tiens à le dire tout de suite.
Non?
On parle sur un pensable.
Non, non,
je
j'ai
dépend, je dirais que ça dépend des alcools. Alcoolisés, mais des fois c'est champagne, des fois c'est piquette, des fois c'est.
Voilà. Ça dépend
des. Il ne faut pas dire du mal que je l'ai vu là.
D'accord. Mais tu noteras que je n'ai rien.
Il y a
des
couleurs.
Je peux dire du bien du champagne.
Ah bah moi aussi.
Je te suis. Donc beaucoup de champagne.
Plein.
À flot. Beaucoup de champagne et ouais. Et sinon du gin aussi. Alors, tu vois, le gin de fin de soirée.
En cocktail.
Non.
D'accord.
Non, du gin de fin de soirée où là vraiment effectivement tu finis par déprimé.
Le jean de l'ouvrier anglais.
Et à quoi
ça fait
à quel genre d'alcool vous comparez vos romans justement? Quel enivrement vous proposez au lecteur? Cette métaphore est due à moi.
On va citer des marques cette
année. Non.
Alors ça dépend des romans. Je dirais que le dernier, un petit peu quelque chose, je dirais de l'absinthe, peut-être le dernier.
Alors parlons du dernier, pour quitter la métaphore de Fabrice. Est-ce que Lune et l'ombre, c'est une façon pour toi d'entrer dans l'univers créatif?
Ouais, ce que j'ai adoré dans Lune et l'ombre, c'est qu'en fait, j'ai réalisé un vieux fantasme de gamine. Quand j'étais petite, j'ai eu un album qui s'appelait Le Tigre du Douanier Rousseau. Donc, qui racontait l'histoire d'un tigre du Douanier Rousseau qui sortait de sa peinture et qui en gros essayait d'aller croquer une boutique vieille. Et moi, je suis restée focalisée sur le tigre, sur une envie dingue de pouvoir effectivement rentrer dans des univers de peintre ou faire sortir généralement des lions, des tigres d'univers de peintre. Et donc, Lune et l'ombre, c'est vraiment un fantasme réalisé. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une jeune fille qui dessine, qui se passe dans un 20e siècle que j'ai laissé volontairement flou. Et qui perd ses couleurs, et pour retrouver ses couleurs, qui va rentrer dans une exposition, enfin dans les tableaux d'une exposition sur les femmes peintres du 19e et 20e siècle. En fait, c'est tout ça, ça va être mon côté féministe. Voilà. Et ce que j'ai adoré, c'est que généralement, je ne sais pas, vous avez l'illustrateur illustre quelque chose qui est donc le texte de l'auteur ou se fait un délire à partir d'un bout de texte de l'auteur. Et là, ce qui était génial, c'était de rentrer dans l'univers d'un peintre de me l'approprier, d'essayer de le faire aimer et d'imaginer tout un tas de choses. Et notamment, je me suis vraiment éclatée avec les univers de Leonora Carrington et Remedios Varo, qui sont deux femmes peintres surréalistes, où effectivement, bah voilà, c'est des univers de fantasy. Et il y a des ésotérismes et il y a du rêve. Et ce qui était génial, c'était vraiment de pouvoir imaginer, par exemple, à partir du créateur des oiseaux, un homme chouette qui, effectivement, est le maître d'une cité labyrinthe. Et ça, c'était vraiment génial. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question,
mais oui, c'est à fond sur les tableaux. On a dit que peu importait les poseurs de questions. Voilà. En fait, c'était la réponse.
Voilà.
Et alors, Cindy, vous, quand votre personnage principal est tout à coup attiré dans des univers historiquement passés, qu'est-ce qui vous tente vers le fait de raconter quelqu'un de notre époque amené à une autre époque? Est-ce que c'est le fantasme qu'on a tous un peu quand on est jeune, tiens, je vivrais bien à telle époque, ou tiens, je...
Oui, il y a certainement ça, mais il y a aussi le fait, bon, il n'est pas tout à fait... dire c'est pas du voyage temporel, c'est plutôt du voyage dans la mémoire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est plongé dans la mémoire d'une époque, d'un certain groupe de personnes, puisqu'on parle ici des outrepasseurs, et qui est amené à découvrir en fait non seulement un tout autre univers de celui qu'il connaît dans sa vie quotidienne, mais également un héritage qui, lui, va le concerner au premier chef, même si on le découvre au fur et à mesure des pages. Oui. Et en fait, moi, je me suis offert donc un grand fantasme avec ce bouquin. C'est tout simplement pouvoir dire... voilà, on parle beaucoup aussi, on a parlé beaucoup à un moment donné des sociétés secrètes et des codes et tout ça. Et donc, moi, j'en ai créé la mienne, mixée avec un petit peu de féerique dessus, parce que bon, sinon...
Révélation de cette voilà. table ronde.
Voilà.
Cindy est peut-être une Illuminati.
Je ne sais pas. Alors, mais on va ça. Après, il va falloir encore que je dévampirise mes élèves.
Attention. Non, mais voilà. Moi, je me suis offert ce fantasme. Et j'ai aussi offert le fantasme d'enfance, puisqu'on en parlait donc avec Charlotte. C'est aussi voir les contes de fées à ma sauce. Et tout au moins de pouvoir explorer ce côté noir qu'il y avait dans les contes originaux.
Et qui a été très gommé par Disney et par les adaptations qu'on nous propose.
Très gommé et un effet tu vois.
J'essaye de rester polie.
Voilà. Non, mais ce que je peux dire, ce qui est vraiment bien aussi, enfin, je vais faire de la pub pour les copines, c'est que c'est aussi un univers qui s'inspire des fables, du roman de Renard, des fables de La Fontaine, et on retrouve effectivement des hommes bêtes, des bêtes qui parlent. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment génial.
Fabrice, comment est-ce qu'on passe en tant qu'inventeur d'histoire, comment est-ce qu'on passe on parlait avec Charlotte du fait qu'elle était entrée dans l'univers d'auteurs de tableaux. Vous êtes entrée dans l'univers de Morcote, par exemple. Est-ce que c'est aussi une façon de combler des trous de l'histoire, comme vous le disiez pour Kafka, ou de s'approprier un univers qu'on apprécie tout simplement?
Oh ben non, là c'était plus une opportunité, je dirais, et un rêve de gosse aussi, parce que moi je... Les romans de Moorcock, quand j'avais 13-14 ans, je les volais à la FNAC.
Bravo.
Il y a prescription. Merci.
Va bien.
C'est bon, avant, je ne le disais pas.
C'est mieux.
C'est l'opportunité
de... Ne faites pas ça chez vous.
Non,
hein.
C'est pas ça la question. Si on pouvait voler des trucs chez Amazon, bon, c'est pratique.
Non, c'est eux qui le font, ça.
Ouais. Pas de politique.
Non, mais ils nous volent nos livres qu'on achète chez eux. On est bien d'accord.
Ouais. ça y est, vous m'avez perdu. Ah oui, alors donc, Moorcock... il écrit le cycle d'Elric, et dans le cycle d'Elric, il y a d'autant plus de trous qu'en fait, on s'aperçoit que... Il a écrit ses bouquins quand il avait 20-25 ans et dans un état, on va dire, un peu second.
Ça, c'est pour revenir à la métaphore de tout à l'heure, c'est
ouais,
ça?
Ouais, un peu. Là, c'est, oui. Ouais, je pense que là, là on n'est plus dans le champagne.
On commence avec le gin, mais après...
Et non, c'est assez marrant parce que dans les gens justement qui montent des univers comme ça, il y a des gens qui ont un souci de cohérence absolue, et maintenant je pense que c'est de plus en plus le cas, il y a une espèce de professionnalisation. Mais à l'époque, alors dans les années 60, Moorcock écrit plusieurs bouquins qui se passent dans le même univers, mais en fait, il y a une chronologie, hein, il n'est pas censé se contredire, mais en fait il ne fait pas trop gaffe, personne ne fait gaffe. Et quand on relit en gros le canon de l'œuvre pour voir où est-ce qu'on va s'intercaler là-dedans et être sûr que soi-même on va pas dire de conneries, c'est pour ça que lui en dit en fait. Moi j'ai fait relire le bouquin à un spécialiste de Moorcock qui était en fait plus spécialiste de Moorcock que Moorcock lui-même et qui me disait bah, il y a des soucis parce que là il n'y a pas le bon nombre de dieux, puis alors ce démon-là c'est pas celui-là, et puis machin.
La cohérence tient pas.
Voilà, alors, et moi je pose les questions à Moorcock en disant excuse-moi, je crois que
tu as
peut-être des soucis, mais c'est le mec qui a dû se tromper, certainement il a du mal comprendre, et Moorcock, oh, c'était il y a 50 ans, j'en sais rien, en gros. Du rock'n'roll et voilà pour pas dire autre chose. Voilà, je fumais beaucoup de guitare et donc au-delà de ça, c'était aussi une confrontation avec une autre façon de concevoir des histoires. Lui, il a une façon très linéaire, c'est-à-dire il prend son sac à dos, puis il va dans la jungle et puis advienne que pourra. Et pour quelqu'un qui est dramatiquement incapable de faire ça, c'est vachement rafraîchissant, je trouve. Et en même temps, c'est un vrai contact avec une autre façon de travailler. Je pense qu'on a, on a plus ou moins le curseur vers le... Voilà, il y a des gens qui font vraiment des plans extrêmement précis, qui vont commencer à écrire leur roman alors que ça fait déjà 3 ans qu'ils bossent sur un plan parfait où la couleur de la lampe de chevet a été définie, etc.
Et il y a
des gens... Voilà, il ne changera pas. Il y a des gens qui se disent... on y va, on verra quoi. Bret Easton Ellis, par exemple, on n'est pas dans l'imaginaire, mais c'est un type qui fait des plans qui sont plus longs que les romans, en fait. C'est-à-dire qu'il il définit tout, quoi. La pièce, machin. Bah, probablement, ouais, je sais pas. Mais après, il enlève des trucs, finalement.
Ouais.
C'est assez
facile.
Dans cet ordre d'idées, il y a une auteure de la génération suivante de Moorcock, mais américaine, c'est Marion Zimmer Bradley. Elle a commencé à écrire la série Ténébreuse, un peu comme Moorcock sans doute, parce qu'ils n'étaient pas, pas dans la mouvance de la cohérence, etc. Mais en fait, elle a été rattrapée par un truc inattendu, ce sont les fans qui se sont mis à vraiment lire Ténébreuse avec attention. Et résultat, elle s'est retrouvée avec un canon qui sortait de ses livres, mais que ses fans lui ont imposé.
Oui, une espèce d'encyclopédie de son propre univers.
Exactement. Et... du coup, elle a été hyper cohérente, mais par force quelque part. Et du coup, mais c'est très intéressant, Ténébreuse, parce que ça a été une des premières séries où d'autres auteurs se sont intégrés, mm-hmm. comme Mercedes Laquais, je crois qu'elle s'y est mise. André Norton, absolument. Et donc, il y a une véritable cohérence dans tous ces textes qui sont autour de Ténébreuse et dans qui ne sont pas tous l'œuvre de Bradley, qu'on ne retrouve pas chez Moorcock ou même chez Heinlein. Qui pourtant prétendait écrire une histoire du futur. Ah merde, c'est enregistré. Je vais me faire taper par Amélie Pichol. Les spécialistes de Heinlein. Mais il y a des. Même si on tient compte du fait que je n'ai pas tout lu chez Heinlein, puisqu'il y a une partie qui est non traduite, je ne peux pas lire en anglais, je ne comprends pas ce que je lis.
C'est ennuyeux.
C'est ennuyeux. Il ne reste pas moins que les voyages dans le temps n'expliquent pas toutes les incohérences. Ça aide.
Oui,
il y a un moment où c'est triché.
Est-ce que pour vous, tiens, voilà une question, quand on est créateur d'univers, quand on a la passion d'inventer, est-ce que par moment on n'a pas un peu l'envie de facilité de recourir au Deus Ex Machina en disant bon, allez, on le fait comme ça, ça ne tient pas vraiment la route, c'est peut-être un peu facile, mais tant pis, je me lâche. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous énerve dans les romans des autres ou est-ce que chez vous, c'est quelque chose que vous évitez de faire?
Ça dépend le roman, en fait, hein, je pense. Mais de toute manière, on compte sur les relecteurs derrière pour nous
dire
nous mettre un coup sur la tête en disant attention parce que là, t'as merdé.
Parfois, il y a un plaisir pervers à utiliser la vieille ficelle épaisse comme un câble d'amarrage de transatlantique parce qu'on l'a vu tellement de fois, elle est chouette, on l'aime bien.
Oui.
Et finalement, le lecteur l'aimera peut-être aussi.
Bah, ça fait aussi partie des attendus. Dans la première aventure de Navarre, j'ai créé un Brésil totalement de cartes postales et je l'ai fait exprès. Il n'était pas question de faire le vrai Brésil de maintenant, enfin des années de 1968.
Pas de Coupe du Monde, pas de football, tout ça.
Ah, ça j'aurais pu par contre.
Parce qu'il y a des gens qui appellent des trucs aussi, effectivement. Donc, Brésil, on a envie effectivement de voir.
Des cocotiers, des filles à poil, voilà.
Et un roman de KPGP, tu as besoin d'un bon gros complot.
Voilà,
okay. Et des épées et des câbles.
Et, oui. Et d'un cardinal pervers.
Avec un borgne.
Un cardinal borgne. Hein.
Avec une épée.
Eh bien, vous avez le personnage principal du prochain roman de Charlotte. Alors, avant qu'on s'arrête et avant qu'on soit trop mouillé, est-ce qu'il y en a qui ont une question éventuellement sur cette passion d'inventer? On t'écoute. Jeanne nous a parlé de ce délai de 3 ans qui est...
Ah oui, mais là si tu veux, c'est un peu pas normal.
Enfin, je dirais que ça dépend, oui, effectivement, ça dépend de la taille du roman, ça dépend de la documentation qu'il nécessite, ça dépend de l'état d'esprit, même si toi tu es enseignante, toi tu as un truc à côté et nous deux on en vit. Donc c'est vrai qu'on a une obligation aussi d'écrire, mais je dirais qu'il y a des romans qui s'écrivent tout seul, il y en a d'autres qui c'est hyper galère. Et après, voilà, c'est vraiment c'est très élastique. Moi ça va de 1 mois à 4 mois, 5 mois. En gros.
Après, il peut y avoir des idées qui germent il y a très longtemps, en fait.
Oui,
moi, je le compte pas, ça, parce que sinon, tout dure 3, 4 ans, 5 ans.
C'est ça qui est là.
Tu peux avoir une idée il y a longtemps, et elle va, tu l'as laissée dans un coin, et un jour, tu te dis, je vais écrire un nouveau roman, tiens, il y a ce truc-là là, qui me travaille depuis un certain temps, et je vais m'y mettre. Mais là, ça peut être un grand laps de temps, on va pas compter ça.
Moi, je dirais qu'on a tous écrit nos romans à l'âge qu'on a, en fait. Les
Jeanne ne sent pas la pluie, hein. Elle est dans sa bulle inventée.
Jeanne, elle est un peu...
Bon, bah, c'était improvisé, mais...
Oui,
mais
c'est un peu...